Oui, il est bon de pouvoir monter ensemble à la maison de Dieu et de chanter des louanges. Alors pendant le mois de novembre-décembre, au Temple Pompigny, nous sommes rassemblés, chrétiens de différentes communautés, pour nous préparer à animer des soirées de Noël, à chanter dans les rues de Pompigny aussi le 25 décembre. Et puis, il est de tradition que, pendant ces temps de répétition, ou avant ces temps de répétition, en général, l'une ou l'un parmi nous va apporter une parole, il y aura une prière, etc. Alors, ça se fait un peu à la der. Bon, moi, je me méfie un petit peu, je me prépare. Si jamais on me demande, eh bien, je vais dégainer. On ne m'a pas demandé. Mais ça fait rien, j'ai quand même réfléchi, je me suis préparé, et puis, voilà, Seigneur, est-ce qu'il y aurait une parole, quelque chose, si jamais on me sollicite pour ça. Et puis effectivement, il y a une parole qui est venue dans Éphésiens 5, et j'ai commencé à regarder cette parole, et plus j'ai commencé à lire cette parole, ça m'interpellait, ça. Waouh, puis je trouvais que c'était pas si simple que ça à comprendre. Mais petit à petit, il y a pas mal de choses qui venaient. Et je me disais, ah ben, j'aurais pas assez de temps pour la partager juste dans cette introduction à la répétition de la chorale. Et c'est là que je reçois un message de Johan, votre pasteur, qui dit, écoute, est-ce que le 5 janvier, tu serais disponible pour apporter une méditation? Oh, je dis, Seigneur, c'est formidable. Alors, il me semblait que ça correspondait à quelque chose. Et j'aimerais partager avec vous ce texte d'Éphésiens 5, un petit bout, sans prétention, mais sous forme un peu de témoignage aussi, vous dire comment j'ai cheminé avec ce texte, voilà, les questions que j'ai eues. Les éléments de réponse qui sont là aussi, et j'espère que ça peut nous bénir. Alors on va le découvrir, ce texte, et vous verrez que c'est en lien avec la plénitude de l'esprit. Et je me disais que c'est beau pour commencer une année. Hein? Dans le monde, on dit, voilà, on va prendre des bonnes résolutions au début de l'année. Alors c'est pas forcément de cet ordre-là, parce qu'on sait que les bonnes résolutions, en général, elles font pas long feu. Mais c'est plus un état d'esprit, je crois, c'est un style de vie que le Seigneur voudrait nous permettre de découvrir toujours mieux et toujours davantage au fur et à mesure du chemin. Ne vous enivrez pas de pain, de d'accord. Bon, j'ai rien bu avant de venir, si ce n'est un café. Hein. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment le Seigneur, Dieu le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. Alors, j'étais un petit peu perplexe en lisant ce texte. Je vais vous dire pourquoi. J'aime bien le thème de la plénitude de l'esprit, mais pour moi, ça me déconcertait un petit peu. J'avais l'impression qu'on pouvait, à quelque part, comme utiliser une formule. Ceux qui ont fait l'armée, il y a un formel avant de tirer, il faut faire certaines choses, etc. Et puis, c'est comme si on appliquait une méthode et puis on aboutissait à la plénitude de l'esprit. Je ne sais pas si ça vous donne cette impression. Alors, j'ai dû travailler un peu, j'ai regardé un petit peu des commentaires, etc. Et il y a quelque chose qui m'a aidé, c'est, je suis désolé, hein, pour un dimanche matin, une étude de vocabulaire. Ce sera rapide, hein, rassurez-vous, mais quand même, c'est important. Le verbe qui est utilisé, « soyez remplis », appelle quatre remarques. Tout d'abord, soyez remplis, c'est à l'impératif. C'est pas à bien plaire si on veut vraiment être en accord, en harmonie avec notre proclamation de Jésus comme Seigneur dans notre existence et qu'on est d'accord lui obéir. Je crois que c'est quand même la base de la marche en Christ. Eh bien, on n'a pas vraiment le choix, hein, même si le Seigneur ne va pas nous violer, il ne va pas nous obliger, il ne va pas nous maltraiter. Mais je crois que c'est plus qu'un conseil d'amis. C'est un cadeau que Dieu veut nous faire de pouvoir entrer dans ces dimensions-là, parce qu'il donne ce qu'il ordonne. C'est-à-dire qu'il y a une grande bénédiction quand on est sensible à sa parole. C'est au pluriel, adressé à toute la communauté chrétienne. Il y a une prière tout à l'heure dans ce sens, dans ton armée, Seigneur, il y a des officiers, puis il y a des soldats. Alors c'est peut-être vrai, en tout cas il y a des ministères différents. Mais on est tous égaux en valeur et en dignité, et on a tous besoin de pouvoir vivre cette dimension-là, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. C'est un don qui est fait au corps de Christ, à chaque pierre vivante du corps de Christ. C'est quand même important de le souligner. Ensuite, ce verbe est au passif. Soyez remplis, c'est-à-dire laissez l'esprit vous saisir. Ça nécessite vraiment un abandon confiant dans le Seigneur. Sans réserve, mais on n'est jamais des robots, on n'est jamais passif. Il y a comme une démarche, une combinaison entre ce que le Seigneur fait et notre part. J'ai un ami qui se plaît à dire, et j'aime bien ça, le Seigneur met les noix à notre disposition, mais ce n'est pas lui qui les casse. Et j'aime bien avec le texte de Jean 7, aussi quand Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Hein? Et c'est là que l'Esprit va nous remplir, va nous visiter, va nous accorder une onction, quelque chose, une dimension qui nous dépasse et qui est merveilleuse. Il y a une diversité d'opérations du Saint-Esprit. Et j'aime bien pouvoir souligner ces choses. Et puis, le dernier mot, dernière expression, remarque qui est faite, il est au présent. Ça ne s'arrête pas à une action initiale ponctuelle, par exemple la nouvelle naissance, hein, mais il s'agit d'une action continue, constamment entretenue. Je le vois dans la vie quotidienne, justement, si je reprends l'histoire de l'eau, il y a une fontaine devant chez moi, il y a le robinet, ben, tous les jours, voilà, je fais la démarche. J'ai envie de remplir le robinet d'eau parce que j'ai soif et j'ai besoin. Mon corps a besoin et mon âme et mon esprit aussi ont besoin de cette œuvre de l'esprit. Alors, pour moi, ça m'éclairait dans le sens, on voit bien que cette dimension de la plénitude de l'esprit est en lien avec la grâce de Dieu. La grâce abondante de Dieu, c'est un processus de révélation dans lequel on est appelé à entrer dès notre nouvelle naissance spirituelle et tout au long de notre existence. Et l'Épître aux Éphésiens, je vous encourage à la relire en entier, c'est un texte où la révélation de l'Esprit Saint est mentionnée sous différents aspects. C'est extraordinaire. Il y a d'abord, au chapitre premier, cette image d'un sceau. Nous sommes marqués, Dieu nous a marqués d'un sceau, du sceau de son esprit, du sceau d'appartenance. Nous lui appartenons. Si vraiment on a compris qui est Jésus, son œuvre, sa personne, son amour, son alliance, etc. Voilà, on n'a rien à craindre parce qu'on lui appartient. Et c'est lui qui est le Dieu souverain. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Maintenant, au chapitre 4, quelque chose de moins marrant, c'est-à-dire que Paul dit qu'on peut attrister son Esprit Saint. On peut l'attrister. Il dira aux Thessaloniciens aussi, on peut éteindre le Saint-Esprit. Donc il y a d'une part cette œuvre de grâce généreuse de Dieu, il y a d'autre part la réalité de ce que nous sommes. Et nous restons des pécheurs. Des pécheurs graciés, pardonnés, mais voilà, la vie est quand même pas simple et notre planche de salut, à quelque part, c'est vraiment de pouvoir vivre une communion avec Christ tous les jours. Avoir la simplicité de cœur de lui demander pardon, peut-être tous les jours. Si on fait un bilan à la fin de chaque journée, des fois, c'était des journées merveilleuses, des fois, c'était pas terrible, hein. En tout cas pour moi, mais je sais pas comment vous le vivez. Il y a quand même un ennemi redoutable, hein, qui essaye de nous déstabiliser, qui essaye de nous entraîner dans des voies qui ne sont pas celles du Seigneur. C'est pourquoi on a besoin de pouvoir entretenir cette relation, d'être renouvelé constamment dans cette relation, dans cette communion avec lui. Et je crois que c'est l'œuvre de Dieu de vouloir nous bénir pour que nous soyons en bénédiction. Donc finalement, un peu ma conclusion, c'est un peu là de la théorie, tout ça. On va avoir plus de parties de témoignage tout à l'heure. J'en ai conclu que vivre la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas une formule, aussi magique puisse-t-elle être, mais c'est vraiment aller de l'avant avec la confiance que le Seigneur nous a mis en route, veut nous accompagner, veut nous ouvrir des chemins. Et dans ce texte, précisément, il y a la description des effets bénéfiques, quelques effets bénéfiques de cette œuvre de l'Esprit qui a commencé dans nos cœurs lors de la conversion, de la nouvelle naissance. Et on va parcourir ces quatre éléments qui sont mentionnés rapidement, parce que je trouve que c'est très intéressant. On verra en particulier qu'ils ouvrent des dimensions relationnelles, soit les uns avec les autres, soit avec le Seigneur lui-même. Et je trouve que ça, c'est un grand cadeau de découvrir ces éléments. Je vais vous donner quelques témoignages en lien avec quelque chose de très spécifique, quelque chose qui m'habite depuis plusieurs années de manière plus pointue, c'est la question de l'Église persécutée. L'Église persécutée dans le monde, vous savez qu'il y a un chrétien sur sept sur la terre qui est persécuté, d'une manière frontale, hein, où il y a restriction de liberté, difficulté si on est attrapé avec une Bible, on peut avoir des peines de prison, etc. On peut, voilà, pas accéder à certains emplois dans la société parce qu'on est chrétien. Donc c'est du sérieux et j'apprends beaucoup de ces chrétiens persécutés. Je trouve qu'ils ont beaucoup de choses à nous enseigner. Eux, ils nous demandent de prier pour eux, mais on leur dit aussi prier pour nous. J'ai lu un témoignage au sujet de ce texte d'Éphésiens 5, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Pour moi, c'est une manière d'incarner dans nos réalités cette interpellation d'Éphésiens 5 en lien à la fois avec la plénitude de l'esprit et des dimensions de louange. Hein, parce que c'est ce dont il est question ici. C'est un livre écrit par un certain chrétien, ce n'est pas le vrai nom de l'auteur qui est là, mais peu importe. Il voulait rester anonyme pour les raisons qu'on peut imaginer. Et c'est un ouvrage que la Ligue a publié, c'est 15 raisons de s'intéresser à l'Église persécutée. Et je vais vous résumer en quelques mots le témoignage qui est donné dans ce livre, dans un chapitre. Qui nous rappelle que chanter est une des ressources, la louange, le chant, la musique, une des ressources que Dieu met à notre disposition pour être fortifié. Alors, je donne ces témoignages à partir de nos textes. Soyez remplis de l'esprit, dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Des nuances qui se complètent. Les psaumes, on sait, il y a beaucoup de psaumes, c'est la louange, on peut y induire aussi, y inclure l'utilisation des instruments. On a vu pour la louange tout à l'heure, voilà ce que ça peut donner. C'est magnifique. Alors, il y a des psaumes, il y a des hymnes dans la Bible qui sont remarquables. Il y a des hymnes qui ont été utilisés par l'Église au cours des siècles aussi. Il y a des cantiques spirituels, des cantiques qui peuvent être inspirés sur le moment, qui sont peut-être plus courts que des cantiques traditionnels. Mais tout ça nous permet, quand on se retrouve, quand on se rencontre avec d'autres croyants, que ce soit dans le cadre d'un culte, ça peut être un groupe de maison, ça peut être ces chrétiens qui se retrouvent au bord d'une rivière. Parce qu'il n'y a pas de lieu de culte, il n'y a pas de synagogue, comme on le voit dans le livre des Actes. Ces chrétiens qui sont persécutés dans le monde, ben, souvent ils ne peuvent pas forcément louer à tue-tête dans un foyer, dans une maison, dans leur domicile, parce que sinon les voisins entendent et la police va venir. Mais il y a des choses qui vont pouvoir se vivre qui sont très très fortes, parce que le Seigneur va nous inspirer. Je suis en train de lire un ouvrage qui va, j'espère, être publié l'année prochaine sur les chrétiens persécutés. Et l'auteur de ce livre m'a demandé de relire son ouvrage, que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, parce que j'ai trouvé des perles magnifiques. Et il rappelle cette réalité que je connaissais, c'est que le livre de l'Apocalypse, c'est le livre qui est le plus lu par les chrétiens persécutés. C'est le moins lu en Occident, parce qu'on a peur, tout ce qu'on pourrait perdre si tout d'un coup il arrivait tous ces malheurs qui sont annoncés dans l'Apocalypse. Mais en réalité, c'est un livre qui est extraordinaire. Je dis souvent, est-ce qu'il faudrait arracher ce livre parce qu'il nous parle de catastrophe? Mais non, ce serait terrible s'il n'y avait pas le livre de l'Apocalypse. Parce que dans l'Évangile, on voit la vie de Jésus pendant 3 ans, puis après, il part, il retourne vers son Père. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et le livre de l'Apocalypse nous décrit toute cette action extraordinaire. Le Seigneur à la droite de son Père, cet agneau qui se manifeste, c'est fantastique. C'est le livre le plus lu par les chrétiens persécutés parce que c'est un livre d'espérance qui parle de la victoire finale de Christ sur les puissances du mal. Voilà ce qu'écrit cet auteur à ce sujet. C'est aussi un livre de résistance qui stimule la persévérance des croyants et qui encourage à la proclamation de l'Évangile en toutes circonstances. C'est vrai que c'est intéressant, il y a 7 cantiques de louange, des cantiques spirituels dans l'Apocalypse. Donc si vous avez peur de lire l'Apocalypse, allez déjà voir les cantiques de louange. C'était de la même qualité, voire encore plus fort que ce qu'on a vécu ce matin. Oh, ce sont des ressources, c'est une ressource fantastique. Il y a aussi 7 fois, chiffre 7, de plénitude. Hein. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de Dieu. C'est le seul livre de la Bible où il est parlé que c'est une béatitude du bonheur que nous avons à pouvoir bénéficier de la lecture de la parole de Dieu. Tout le monde n'avait pas une Bible à l'époque. Celui qui lisait, qui avait le privilège de la lire le texte, il était privilégié. Waouh ! C'était peut-être plus facile de la retenir pour elle, pour lui. Et puis les auditeurs, ben, ils étaient aussi privilégiés, ils étaient heureux parce qu'ils pouvaient entendre la parole de Dieu. Alors, voilà, exhortation à pouvoir utiliser ce support de la parole, utiliser des cantiques, des psaumes, des chants pour s'encourager, etc., mutuellement. Ça fait partie du plan de Dieu pour nous. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Est-ce que nous le célébrons de tout notre cœur? Comment est-ce qu'on vit ça? Si je chante pas très bien, j'ai vu qu'il y avait une indication, une traduction possible, chanter et célébrer le Seigneur dans votre cœur. On se dit, ben, pour ceux qui ont de la peine peut-être, qui ont des complexes, c'est pas mal cette formule, on peut chanter, mais voilà. Mais en réalité, je pense quand même, de tout votre cœur, c'est ce qui devrait transparaître. Et dans ce livre que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est un homme qui aujourd'hui est reconnu comme étant un des leaders mondiaux de la compréhension de la persécution. Il a écrit beaucoup d'autres livres, il a publié d'autres choses sous son vrai nom. C'est un Écossais, voilà, je peux vous dire ça. Il est allé en Chine il y a déjà bien bien des années, une trentaine d'années. Il est allé visiter des chrétiens là-bas. Et il a passé une semaine avec une évangéliste chinoise et il a dit comment il avait été impressionné par cette vie de prière, de louange de cette évangéliste. Il était impressionné parce qu'elle chantait tout le temps des cantiques, du matin au soir. Il disait, mais comment est-ce qu'elle fait? C'est incroyable. Il dit, bon, ces cantiques, ils n'étaient pas particulièrement profonds. Hein. Ça manquait... Lui, comme occidental, ça manquait de théologie et puis de poésie, un peu comme ça. Puis il dit, bon, les chrétiens chinois, ils ne se distinguent pas forcément par des talents musicaux fantastiques. Ils ne chantent pas bien, avec des trémolos, la voix est raillée, c'est monotone ou c'est une voix stridente. Enfin, ça détonne complètement quand ils sont à plusieurs. C'est un peu le Bronx, on dirait. Hein? Puis il disait, même quand ils étaient en groupe, ils semblaient chanter chacun pour lui-même. Alors, il s'est un petit peu remis en question, puis il s'est dit, mais finalement, bon, quand je vais à l'église, au culte, je chante, ou parfois dans le groupe de maison, un refrain éventuellement, mais j'ai jamais pensé à chanter pour moi-même, pour mon édification personnelle, et puis j'ai jamais imaginé qu'on pouvait chanter, par exemple, pour édifier autrui. Parce que quand on est dans un groupe comme ça, ben on est plusieurs à chanter, on se fortifie. C'est ce qu'on a vécu, ce qu'on vit à la chorale quand on répète à Pompigny. C'est pas seulement des répétitions de chant. On sent qu'il y a plus. On entre des fois dans de la louange tout en répétant, puis voire dans de l'adoration. Et on voit la puissance du chant vraiment et de la musique. Hein, c'est quelque chose de fantastique. Ça se vit aussi dans le monde, dans la société d'ailleurs. Mais il n'y a pas la dimension spirituelle comme on peut la vivre avec le Saint-Esprit, bien entendu. Alors il s'est laissé interpeller, il s'est dit, mais pourquoi est-ce que je ne chante pas moi-même davantage pour me fortifier? Pourquoi est-ce que je ne vois pas le chant comme un ministère d'encouragement pour les autres aussi? Remercier Dieu constamment, Dieu le Père, pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un matin, il s'est rendu sur une colline avec cet évangéliste. Et puis il l'a observée à une certaine distance, il ne voulait pas la déranger. Il a vu qu'elle était en prière pendant une vingtaine de minutes. Et puis elle a chanté. Ils ont marché ensemble pendant 20 minutes, elle a chanté sans arrêt. Après, elle a lu la Bible pendant 1 heure de temps, elle prenait des notes pour la prédication du jour. Et puis elle a chanté pendant une demi-heure. Alors il l'observait, il était admiratif, il disait, mais c'est incroyable. Puis il lui a dit, mais pourquoi tu chantes tellement? Il n'y a personne qui t'entend. Il n'y a personne qui t'écoute, vraiment. Elle a dit, ben, une des belles choses, une des plus belles choses de la foi pour moi, c'est d'agir par obéissance. Puis passer tout le reste de ma vie à mieux comprendre pourquoi Dieu nous a donné ses commandements. Bon. Elle dit, ces commandements, ils sont tellement bons. Je crois que c'est sa parole qu'elle est là pour nous nourrir, pour nous fortifier. Et puis elle a donné quelques mots supplémentaires de témoignage. Elle a dit, quand j'étais en prison pendant plusieurs années, je pouvais prier, je pouvais lire la Bible, ce qui est étonnant, mais il y a eu des périodes en Chine où, même s'il y a eu pendant longtemps, depuis longtemps la persécution, il y a peut-être eu des régions où c'était un peu plus souple, semble-t-il, elle avait une Bible avec elle. Mais elle a dit, mais il n'y a rien qui m'a encouragé davantage que le chant, que la louange. Elle dit peut-être parce que le chant demande au corps tout entier de se concentrer sur la louange au Seigneur. Et elle dit, notre esprit, elle lui a dit, notre esprit ressemble à une fleur, le chant en est le soleil. Tout comme les fleurs ne s'ouvrent que lorsque le soleil brille, notre esprit ne s'épanouit que lorsque nous chantons. Et elle a encore précisé ceci, depuis mon séjour en prison, je ne cesse de chanter tous les jours. Parce que je sais d'où je viens. Alors, notre auteur, quand il est rentré en Écosse, chez lui, il a commencé à apprendre des cantiques par cœur, ses cantiques préférées. Il a commencé à les chanter pour lui-même, dans son culte personnel, dans ses lectures de la Bible personnelle. Et bien sûr, dans les temps à l'Église, il les a vécues d'une autre manière. Il en a vu le bénéfice. Elle dit, mais finalement, quand on voit dans la Bible Israël, les Israélites, ils ne cessaient de chanter dans le temple. Des exemples comme Paul et Silas en prison, qui louaient le Seigneur, qui rendaient grâce au Seigneur. Non pas parce qu'ils étaient emprisonnés, bien entendu. On ne va pas rendre grâce à Dieu parce qu'on a un cancer. Mais parce que le Seigneur ne nous abandonnera jamais et qu'il sait, il connaît exactement ce qu'on est en train de vivre, il connaît nos découragements, nos défis. Et il ne va pas nous laisser tomber. Il est le Dieu de l'Alliance. Hein? Donc, c'est extraordinaire. Et il mentionne aussi le fait que dans l'Apocalypse, il y a justement ces cantiques qui nous amènent dans la présence de Dieu, qui nous signifient que Jésus est assis sur le trône. Hein? Et puis, enfin, un dernier point. Qui peut sembler étonnant, c'est la soumission les uns aux autres. Voilà un fruit de la plénitude de l'esprit. C'est peut-être pas forcément celui qu'on choisirait, hein. soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et j'ai bien aimé la dernière partie de ce témoignage, quand il était avec cet évangéliste, voilà qu'il y a un prédicateur de l'évangile qui vient la trouver, il est très très déprimé. Il aimerait acheter un magnétophone, mais il n'a pas les moyens. Je pense que ça lui permettait d'écouter des messages, etc., et par ce biais-là. Et puis elle s'est assise à côté de lui, elle a commencé à chanter. Il dit, oh, la voix était vraiment pas top, la mélodie malmenée, et les paroles, mais d'une telle simplicité, il dit, mais c'est... bon, il dit, je suis un voyageur, ma maison est au ciel, la vie est éphémère, notre maison est au ciel, sur cette terre nous traversons de nombreuses épreuves, le chagrin et la maladie, le vrai bonheur n'est pas de ce monde, mais au ciel. Il dit, les paroles étaient d'une platitude incroyable, vous ne trouvez pas? Mais alors, elle reflétait une présence de Jésus incroyable. Elle pleurait. Les larmes coulaient sur son visage. Il y avait une intensité d'une présence de Dieu dans ce moment que lui était « Ah !» Elle avait les mains levées vers le ciel, elle battait la mesure sur les hanches. Et son visiteur n'a pas tardé à se joindre à elle, et leur visage à tous deux s'est illuminé. L'homme est reparti sans son magnétophone, mais le cœur plein de reconnaissance et plein de courage. Alors je vais conclure par cette image que j'aime beaucoup, qui peut représenter la main de Dieu. Il nous a fait un cadeau énorme à Noël, hein, mais c'était le début de l'œuvre de Christ parmi les nations. Le Seigneur continue à nous accorder des cadeaux. Pour moi, j'ai compris que cette dimension de la plénitude de Dieu, c'est un immense cadeau qui est mis à nos dispositions, en réalité, comme toute la parole. Dieu est bon, Dieu nous aime, il veut bénir ses enfants. Est-ce que nous sommes preneurs de ce cadeau? Jusqu'à quel point? Si vous relisez toute l'épître aux Éphésiens, vous verrez que ce passage qu'on a lu ce matin concernant la plénitude de l'Esprit et les relations avec Dieu, avec les autres, est enrobé avec des exhortations par rapport aux relations qui sont difficiles des fois. Il y a des manques d'amour, des manques de pardon. On peut avoir été blessé par des frères et sœurs, on peut avoir vécu des choses difficiles. Il y a toutes sortes de dimensions hautes qui sont soulignées par rapport à l'impureté, par rapport au péché en général, aux faiblesses de la chair, tout ce qu'on peut laisser traîner. Et notre peu de consécration souvent. On se précipite le matin, tout de suite sur la parole de Dieu bien sûr. Ah non, il y a le smartphone souvent. Vite aller voir la météo, vite aller voir tel résultat sportif, etc. Et tout de suite, on est lancé dans la journée. Et je pense qu'on peut être interpellé par plein de dimensions. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit, nous pouvons éteindre le Saint-Esprit. Alors peut-être que ce début d'année est une possibilité aussi de remettre les compteurs à zéro quand même. Et tout à l'heure, eh bien, nous allons... prendre le repas du Seigneur ensemble. Mais avant de prendre ce repas du Seigneur, est-ce que pas une possibilité de faire un moment de silence devant lui, peut-être de lui confesser dans le secret de nos cœurs qu'effectivement on est conscient d'un péché, ou prendre le risque, pourquoi pas, lui dire « Seigneur, montre-moi s'il y a quelque chose qui t'attriste en ce moment de ma vie ». Est-ce qu'il y a un domaine où j'éteins ton esprit? Parce que je sais très bien qu'il voudrait me conduire dans une voie d'obéissance et je n'ai pas envie. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce face-à-face avec le Seigneur un petit moment dans le silence et puis lui demander qu'il nous montre et puis je prierai avant qu'on prenne le repas du Seigneur ensemble. Parce qu'on peut entrer aussi dans un... Dans la repentance, on peut recevoir le pardon, bien sûr, la Sainte Seine va le souligner avec force, mais aussi être renouvelé dans le Seigneur, dans la fraîcheur, dans cet amour fantastique. comme le disent les Québécois, être en amour avec Jésus, vraiment. Waouh. Faisons silence un petit moment. Merci de parler à nos cœurs, Saint-Esprit. Merci parce que tu es un Dieu qui veut nous montrer. Tu ne veux pas nous dresser, Seigneur, tu veux nous apprivoiser parce que tu nous aimes profondément. Et tu sais, toi, là où il y a peut-être des fragilités, des faiblesses, que l'ennemi a exploité pour nous couper à quelque part, atténuer cette relation dans la joie avec toi. Alors pardonne, Seigneur, mes égarements, nos égarements, pardonne. Pardonne le fait que trop souvent nous sommes attirés encore par les choses du monde. Et tu sais, là où on a des combats en particulier, peut-être avec la pornographie, peut-être avec la dureté de cœur, la difficulté à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, ce sont des éléments qui peuvent attrister ton esprit, qui peuvent aussi l'éteindre à quelque part. Et le diable peut utiliser cela pour attiédir notre relation avec toi. Alors merci pour ta parole qui nous enseigne, ta parole qui veut aussi par ton Saint-Esprit nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Et merci parce que Jésus, toi, tu es venu sur cette terre pour nous accorder la vie nouvelle, pour nous accorder le pardon éternel, pour nous accorder l'assurance de ton amour indéfectible, pour nous entraîner dans une dynamique d'alliance qui est extraordinaire, où tu es là de jour comme de nuit, sans cesse, Seigneur, tu veux être là, présent. Et on peut venir à toi comme nous sommes. On peut te louer avec nos belles voix ou des voix éraillées, des voix qui ne sont pas terribles, mais tu regardes à nos cœurs, Seigneur, et tu sais que nous aimons te louer, nous aimons nous tourner vers toi. Alors, Seigneur, merci parce que ce matin, on a pu vivre ce beau moment de louange, on peut vivre cette communion fraternelle, cette possibilité de vivre l'Église comme tu le souhaiterais, où on peut être dans la simplicité de cœur. Te dire nos joies, mais aussi nos défis, nos faiblesses. Et on n'est pas là pour se juger les uns les autres, on est là pour s'encourager les uns les autres. Et à travers ce texte, je crois que tu nous montres, à travers ces témoignages aussi, qu'on peut le faire aussi en se basant sur des paroles, des psaumes, des hymnes, des cantiques, des proclamations de la foi, des confessions de foi, on peut les proclamer ensemble, ça nous fortifie. Il y a plein de dimensions dynamiques, il y a des dimensions qu'on peut vivre ce matin dans le culte, mais aussi dans un culte de famille, ou dans un culte de maison, dans un groupe de maison, dans toutes sortes de circonstances. Alors Seigneur, oui, sois loué parce que tu veux nous enrichir de ta présence. Et dans cette nouvelle année, nous croyons que tu as encore plein de bonnes choses à nous révéler pour que nous puissions être bénis en bénédiction auprès d'autres. Il y en a tellement qui ne connaissent pas ton amour autour de nous. Alors pardonne-nous Seigneur d'être si peureux, si souvent timide, timoré pour leur parler de toi. Mais surtout aide-nous à refléter quelque chose de ton amour. Une bonne odeur de Christ qui les attire vers toi, qui leur font aussi poser des questions ou se poser des questions, voire se remettre en question. Oui, Seigneur, merci pour tout ce que tu as préparé à l'avance pour les membres de ton peuple, mais aussi pour les nations. Parce que, Seigneur, nous croyons qu'avant ton retour, tu vas encore faire des grandes choses. Alors on loue ton nom et on te dit merci pour ce repas qu'on va pouvoir prendre maintenant. Qu'il soit une occasion de joie, une occasion d'être renouvelé. Et si nous sommes venus découragés de repartir fortifiés et remplis d'espérance, parce que même là où il y a des montagnes qui se dressent devant nous, Seigneur, tu peux les aplanir. Tu peux nous donner de te voir agir d'une manière inimaginable. Tu veux répondre bien au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer aux prières d'intercession qui sont faites en ton nom, avec ton autorité, Jésus. Alors, loué sois-tu. Amen.